Audiolib présente D'or et de jungle de Jean-Christophe Ruffin, lu par l'auteur. Prologue. Une dispute ne manque jamais d'éclater à l'agence Providence chaque fois que quelqu'un entreprend de raconter cette histoire. Il se trouve toujours un parti pour affirmer qu'elle ne débute pas en mer de Chine méridionale, où elle se déroule pour l'essentiel, mais dans l'océan Pacifique, au large du Pérou. Il est vrai que cette aventure aurait suivi un autre cours si Flora, ce jour-là, n'avait pas rencontré un requin-baleine. À bord du navire de croisière Prairial, cette blonde de 32 ans avait autant d'importance que le capitaine, même si elle était payée trois fois moins que lui. C'était sur elle que reposait toute l'escroquerie intellectuelle qui avait fait la fortune de la compagnie. Grâce à la présence de cette ancienne championne de plongée, une croisière de retraités arthritiques, intéressée par la bonne chère et gâtée par un personnel aux petits soins, pouvait s'intituler « Navigation d'aventure ». Cette réputation flatteuse était due d'abord aux conférences quotidiennes de Flora consacrées à la faune marine. Elles étaient illustrées par des diapos colorés, mais Flora ne se faisait aucune illusion. Pour l'essentiel, l'assistance était composée d'hommes seuls qui portaient moins leur attention sur les anémones de mer que sur ces formes harmonieuses de sportives. Le responsable du personnel avait été clair avant le départ. N'hésitez pas à vous habiller court, le client est roi. Mais la principale contribution de Flora au programme sportif du bateau était les sorties en mer et ce que le catalogue appelait pompeusement les plongées découvertes. Ces épreuves étaient réservées à un groupe d'élite, 5 ou 6 passagers tout au plus sur 200, qui pouvaient se prévaloir de la forme physique et de l'intrépidité nécessaire pour aller barboter une heure dans les eaux chaudes des tropiques. Les jours où se déroulaient ces sorties, les participants, le torse bombé tel des gladiateurs, traversaient le navire et se rendaient au pont 3 pour enfiler leur combinaison personnelle. Il n'était pas toujours facile de rapprocher les bords en caoutchouc pour parvenir à remonter la fermeture éclair ventrale. Flora feignait de considérer les bourrelets de graisse comme des signes flatteurs de maturité et même, sans insister, de virilité. Elle était en mer depuis 6 mois et enchaînait les croisières. Ce travail l'avait bien dépannée quand elle s'était retrouvée sans ressources l'année précédente. Sur le CV qu'elle avait transmis à la compagnie, elle n'avait mentionné que sa première place au championnat d'Europe de plongée libre. Bien que son titre remontât à 10 ans, la responsable des RH ne lui avait posé aucune question sur ce qu'elle avait fait depuis. C'était tant mieux. Si elle avait dû tout raconter, il est plus que probable qu'il ne l'aurait pas engagée. À bord, Flora était logée à l'étage du personnel, au ras de l'eau, juste à côté du secteur des officiers. Mais faute de place, elle devait partager sa cabine avec une autre femme. Pendant 4 mois, elle avait cohabité avec une danseuse australienne. Cette Judy assurait les activités de réveil musculaire des passagers et faisait partie de la troupe qui donnait chaque soir des spectacles dans le grand salon. Flora l'aimait beaucoup. Malheureusement, Judith entretenait un flirt avec un officier mécanicien et ils avaient décidé de quitter le navire à l'escale de Valparaiso. Elle avait été remplacée par Marika, une Polonaise mal soignée qui fumait en cachette près du hublot. Cette promiscuité mettait constamment Flora sur la défensive, d'autant qu'elle soupçonnait Marika de fouiller ses affaires quand elle ne les surveillait pas. Elle dormait mal et se montrait de plus en plus sujette à des réactions agressives. Un soir qu'elle arpentait les coursives, elle avait sèchement rembarré un passager du pont 6, celui des cabines de luxe qui donnait droit à tous les égards.